L'atelier de la couturière. Depuis des temps immémoriaux, les hommes ont ressenti le besoin de se vêtir pour se protéger. D'abord rudimentaires, les outils pour la fabrication de vêtements se sont perfectionnés et les techniques ont évolué. À l'école. Avec l'instauration de l'école publique obligatoire à la fin du XIXe siècle, la couture est l'une des matières enseignées aux petites filles. Cet enseignement était bien utile pour celles qui deviendraient couturières. Elles pouvaient travailler à leur propre compte, ou pour des maisons de couture. Par exemple, les couturières de la Belle Jardinière travaillaient à domicile et portaient le fruit de leur travail au magasin. Tailleurs et couturières. Jusqu'au XVIIIe siècle, les tailleurs et les couturières avaient deux activités distinctes. Les tailleurs avaient le privilège de faire des vêtements du dessus, les grandes robes ou encore les corsets, tandis que les couturières ne s'occupaient que des vêtements du dessous et ceux des petits garçons de moins de 8 ans. Elles vont progressivement se mettre à confectionner toutes les pièces des toilettes féminines. Aujourd'hui, on ne fait plus vraiment la différence entre tailleur et couturier. La confection. Avant la naissance du prêt-à-porter, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, tout était fait sur mesure. De ce fait, lorsque l'on entrait dans une boutique de couturière, on ne voyait pas de rayonnage sur lesquels les articles étaient disposés, ni même de mannequins présentant des tenues. Il n'y avait souvent que des étagères où étaient entreposés des rouleaux de tissu. On choisissait sur gravure le modèle de robe que l'on voulait. La couturière nous conseillait sur les choix des tissus en fonction des occasions ou des saisons, et l'on passait à la prise de mesure. Après avoir fait le patron, le tissu était étalé sur la table de travail. La couturière traçait à la craie les différents contours des pièces, puis les découpait à l'aide de grands ciseaux. Le lourd fer de tailleur servait, lui, à marquer les plis sur les tissus et à ouvrir les coutures. Le tout était ensuite assemblé à la machine. Certaines finitions étaient faites à la main. Il n'était pas rare de procéder à des essayages en magasin ou chez les clientes. Pour l'essayage, elles pouvaient aussi utiliser des mannequins pour modeler certaines pièces. Une des marques les plus connues était Stockmann. Fred Stockmann était un sculpteur belge, élève du professeur Lavigne. Il créa en 1869 son entreprise Établissement Stockmann Frères, Buste et Mannequin. Stockmann est le premier à vouloir donner une impression de vie aux mannequins en leur rajoutant tête, bras, jambes et articulations. Ces mannequins perfectionnés quitteront les ateliers de couture pour les vitrines de magasins. La mode. Suivant les époques, la mode change du tout au tout. Crinoline, tournure, manche gigot, coupe droite, abandon du corset. Les grandes maisons donnent le ton et les petites couturières suivent le mouvement en se tenant au courant des dernières modes. Celles-ci ne manquaient pas de travail puisque dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les femmes de la haute société se changeaient 7 à 8 fois par jour, adaptant leur tenue à l'heure et au lieu qu'elles fréquentaient. En Anjou, l'industrie du textile est depuis longtemps une activité majeure du Choletais. On en retrouve des traces depuis le XIe siècle avec la culture du lin qui servait ensuite à tisser les toiles vendues sur les marchés locaux. Si l'on tisse des mouchoirs à cholet depuis le XVIIIe siècle, il faudra attendre 1900 pour voir apparaître le fameux mouchoir rouge et blanc, emblème de la ville. Reconnue capitale du mouchoir en 1983, on y fabriquait encore 60% de la production française de mouchoirs.